pas vraiment, vraiment décollé. Par contre, on a eu une aide absolument extraordinaire, l'année dernière, il y a un an et demi, lorsque Darmanin a menacé de dissoudre les soulèvements de la Terre, puisque partout en France se sont constitués des collectifs locaux, des soulèvements de la Terre, et donc à Besançon, très rapidement, le collectif, c'est des soulèvements locaux, s'est créé, et on a eu les politiques, un peu, les syndicats, les diverses associations, etc., qui se sont réunis, beaucoup de gens qui n'avaient très peu ou jamais milité, notamment dans les jeunes. Et puis, ce qui a été très intéressant, c'est qu'en fait, dès le départ, le premier objectif, ça a été de dresser un petit peu tous les menaces sur le foncier, toutes les luttes locales très proches qui se passaient autour de nous. Et sans avoir dressé une cartographie, on s'est adressé à tous les petits collectifs qui se battaient un petit peu tout seul dans leur coin, soit pour aller écouter et comprendre comment ils se battaient, soit pour leur proposer d'être à Besançon, notre collectif, un point d'appui pour lorsqu'ils se mobilisaient, pour que nous, on soit la force d'appoint. Un petit peu comme les soulèvements l'avaient fait, comme force d'appoint, très fort d'ailleurs, national, en appelant à faire les actes 1 et 2 à Besançon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à se réunir et à réfléchir sur le ce qu'il y a de commun de nos luttes. Et c'est vraiment quelque chose de très concret et que j'encourage à faire partout.
Pas de synthèse, une proposition d'action qui s'appellerait International Passaggiata. Je voudrais remercier cet après-midi la balade que l'on a fait. Et vous avez vu, les cartes, c'est une possibilité. Et les Passaggiata, c'est un truc très fort. J'ai l'impression que là, dans le mouvement notable, le fait que vous nous ayez emmené cet après-midi en mouvement, pour plein de gens, c'était véritablement une expérience de se confronter à tout ce dont on a parlé, cette infrastructure, la voir... les piliers en béton, voire le campement militarisé. Et c'était à la fois une manifestation, à la fois c'était pas non plus... Enfin, il n'y a pas eu forcément une conflictualité comme dans d'autres, mais voilà. Et moi, je viens d'une ville qui s'appelle Nantes, où la manifestation, c'est le samedi, et c'est rendez-vous à 14h, à l'endroit des trams, puis on va devant le château, on fait le tour, comme ça. Et en fait, cette expérience-là, elle nous raconte les pouvoirs de la préfecture, mais elle ne nous raconte pas le pouvoir de l'infrastructure. Elle ne nous raconte pas où sont les réseaux Internet, comment s'organise l'agro-industrie. Elle ne nous raconte pas le techno-capitalisme qu'on a besoin de comprendre. J'ai l'impression que l'international Passaggiata, qui fait des petites balades partout, c'est comment on est capable, dans cette époque où on est aliéné, c'est-à-dire que nos luttes, on est aliéné à devoir communiquer sur les réseaux sociaux, sur Internet, à prendre beaucoup de temps parce que c'est là où sont... beaucoup d'espace-temps des personnes. Peut-être c'est désirable, moi je trouve pas trop. Et du coup, comment, en créant une internationale Passaggiata, on peut vraiment créer des moments où on va voir et on va se frotter. Et j'ai l'impression que le mouvement des soulèvements de la Terre, c'est aussi ça. Quand le camarade a parlé des choses urbaines et des choses rurales, c'est à la fois dans les thématiques, mais à la fois dans... juste nos corps, nos expériences, se confronter à ce capitalisme, aller voir. Pour plein de nos existences, on ne voit pas. On vit dedans sans voir le décor, quoi. Voilà, c'est la proposition.
Ben, comme toujours, on a plus de questions que de réponses. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une première occasion qui est très importante. Et on a pu réfléchir ensemble, on a pu voir avec nos yeux les choses, on a pu marcher ensemble. Et c'est sûr qu'on veut continuer à nourrir ce lien. Comme on est venu beaucoup de fois en France, vous êtes venu ici, on espère de pouvoir continuer cette relation si importante. Et c'est pas rien qui a nous amené ensemble, c'était une lutte pour l'eau. Et on essayerait de diffuser un peu partout qu'est-ce qu'on a dit et fait ici ensemble, et aussi de diffuser autour de nous votre modalité de lutte et les choses que vous êtes en train de faire. Et c'est sûr qu'il faut continuer à multiplier les connexions et à multiplier la solidarité qui nous lie aujourd'hui. Yep.
Ouais, je vais finir en vous disant un grand merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu nous chercher à la frontière. Merci de nous avoir accueillis ici depuis hier. Merci de nous avoir... Merci à la traduction. Merci de nous avoir montré les chantiers sur lesquels vous allez régulièrement. Et merci de nous avoir permis d'être avec vous. Merci de nous avoir permis de réouvrir le Présidio des Moulines aujourd'hui et de le faire pour une fois. De nous laisser le faire une fois. Et nous qui allons repartir et qui allons sûrement moins subir la répression que vous, du coup, on est heureux de l'avoir fait pour vous aujourd'hui. Et puis, du coup, c'est le début, je pense, de d'autres discussions. S'il y a des personnes qui n'ont pas pris la parole et qui ont envie de poursuivre les discussions, j'espère qu'on pourra le faire si certains poursuivent la traversée. Et sinon, je pense qu'on reviendra très vite.
Je vous parle au nom de Ecopole Napoli. Et aujourd'hui, pour nous, c'était aussi la raison pour laquelle on était un peu pas distrait, mais on avait aussi ça dans la tête. Aujourd'hui, c'est que c'est un anniversaire très important pour nous. En fait, ça fait 10 ans que Davide Bifolco, qui était un garçon de Napoli, était tué par un policier. Un soir, il était avec des amis sur son scooter, ils étaient trois, ils n'avaient pas, le casque. Et ils étaient suivis et arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés en halte de la police, et du coup, la police les a poursuivis à pied et a tiré. Un policier a tiré sur David et l'a tué directement. Et nous, on a un peu la tradition de penser à lui chaque année. Parce que son histoire est très symbolique. C'est pas que l'histoire d'un jeune homme qui a été tué par la police. En fait, la presse, par exemple, a utilisé son histoire en disant qu'ils étaient sans le casque, ils étaient trois dans le scooter, etc. Et du coup, c'était aussi ça qui a permis aux carabinières de ne pas recevoir une peine appropriée à son délit. Il n'a reçu que 2 ans, qu'il n'a même pas passé en prison parce qu'il était directement réintégré dans l'armée. Et pour nous, l'histoire de David, c'est pas l'histoire, comme je disais, seulement l'histoire d'un jeune homme qui était tué par la police, c'est l'histoire de la banlieue, de la ville de Naples, qui est un peu comme dans les banlieues, je pense, en France. C'est un lieu où on est déjà marqué par la violence, et on connaît que la répression. L'État, dans ces lieux-là, c'est pas l'État qui nous donne des possibilités pour nous soigner, pour avoir une socialité, pour nous éduquer. L'État se symbolise que par la répression dans les quartiers comme Rione Traiano à Napoli. Et du coup, quand quelqu'un est là-bas, la première chose qu'il connaît aussi dans sa socialité, c'est plutôt la criminalité. Et on veut se rappeler de lui ce soir, parce que lui, c'était aussi un symbole de la marginalisation. Et à tout et David, ce n'était pas que un policier, c'était l'État dans sa violence. Et du coup, ce soir, on vous pensait à lui et tous et tout ensemble. Et on vous propose aussi, pour qui veut, naturellement, de faire une photo avec une banderole qu'on a préparée, pour qui le veut. Et après, on va manger.
Tenez vos vignobles, tenez bon. Ils détruisent vos vignobles, tenez bon. Voient vos habitations, effondrent les légions, détruisent pour les avions, des villes par les bidons, et ils vont, tenez bon. Reprends-en le nom, tenez bon. se tenez bon. Spéculateurs, racailles, bourgeois et actionnaires, à ceux qui la travaillent, il faut laisser la terre, paysans, tenez bon.
Mega Radio, benvenuto.
Capsule sonore, tournée montée, AAH, de la traversée des luttes de l'eau.
En roue libre, nos borders.
On balbutie un peu en radio.
Alors on espère pas trop vous bassiner.
Indulgence, joie et amitié.
Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions et mes chewing-gums blackjack et surtout ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
La traversée des luttes de l'eau du 2 septembre au 8 septembre 2024, à l'initiative du collectif Bassine au Merci et dans le cadre de la saison 7 des Soulèvements de la Terre, une délégation a pris la route de la Venise verte du Marais Poitevin, où se déroulera le camp climat de Venise.
C'est le jingle de la meilleure radio de la traversée de l'eau.
Cette traversée des luttes pour l'eau, qui fait écho à la caravane zapatiste pour l'eau et pour la vie de 2022, a pour objectif d'alerter sur les enjeux d'accaparement et de pollution des eaux, de renforcer nos liens entre résistance populaire face au durcissement des violences d'État et de construire un mouvement de défense de l'eau par-delà les frontières nationales.
Sur ton accordéon, tu touches à toucher, couler par ses légères, t'es fou, t'es toi, d'où c'est les anges, si tu fais, t'es pas, t'es pas, sans pire, maman, ils vont nous te casser. Casser l'un n'est plus jamais dans la cella, fais ses copies, la belle, t'es qui vit, pile à la masse, ou pas, pipi, casser la valeur de l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à toucher, couler par ses légères, t'es fou, t'es toi, d'où c'est les anges, si tu fais, t'es pas, sans pire, maman, ils vont nous te casser. Casser l'un n'est plus jamais dans la cella, fais ses copies, la belle, t'es qui vit, pile à la masse, ou pas, pipi, casser la valeur de l'horizon. Si valu pas de la vie ça va, tu l'as dit. Au bal, si c'est là que t'as tout vu passer, le passé des baisers. Vas-y, les vas-y, vas-y, l'enfante, petit déjà. Jadis, on l'a dit, l'on manda, costa, costa, sorti la passe pour ma cour. Et si c'était hommage, passé, c'est un hommage. Aux hommes assis devant, fuit de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, nous tout dit, dans des mots doux, dis-le, si, fais que c'est à pas passer. Et si l'oubli d'asse. Disparaît tout l'engagé, d'ombre comme un bec, qu'un désir ambitieux, assurément libère. Tout de l'animal sauvage, la cage escoumontée à ses têtes. Tu que balla, tu que truque, tu que traca, tu que troca, tu que riga, tu que raga, tu que riga, raga, dano abo malo capetit caporut. Tu poco balla, tu que truque, tu que traca, tu que troca, tu que riga, tu que raga, tu que riga, raga, dano abo malo capelut. Tu poco balla, tu que truque, tu que traca, tu que troca, tu que riga, tu que raga, tu que riga, raga, dano abo malo capetit caporut. Tu poco balla, tu que truque, tu que traca, tu que troca, tu que riga, tu que raga, tu que riga, raga, dano abo malo capelut. L'excitation qui va faire éclater le pont des ateliers. Balancer dans l'air, sans avoir l'air, sous les temps, le temps. Au fond, les vies, début de souffle qui s'étire, laissez bon, c'est le ton de blues. Et si c'était ça la vie, et si on ne l'avait pas dit, les piquets pour qu'on s'y pas de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, nous tout dit, dans des mots doux, dis-le, c'est récit, fais que c'est à pas passer.
Thank you. I realize realize now the dreams are real. I wanted to tell you, pretend to stick together down through the generations, up through the archives. Holding hands through many lives in clusters or packs. Coyote bands. That is how and why I love you now, and have always and will always love you now. I am your lover man. Yes, I am your lover, lover, lover man. Yes, I am.
Sing we all, sing we all. want to give it all. So we owe, we owe, we owe, we owe, we owe. Sing we owe, we owe. Sing we owe, we owe. Sing we owe, we owe. Sing. Sing we owe, we owe. Sing we owe, we owe. Sing we owe, we owe. Sing. So I want to give it all,
want to give it all.
So we owe, we owe, we owe, we owe, we owe. So I want to give it all,
want to give it all.
So we owe, we owe, we owe, we owe, we owe. Sing we owe, we owe. Sing.
Daniel sur le 106.3 FM, et c'est Zoomécologie. Et eh bien, comme on l'avait un peu annoncé précédemment dans l'émission consacrée à l'agriculture et au mouvement des agriculteurs récemment, eh bien, on voulait poursuivre avec une émission consacrée à l'utilisation des pesticides, à la fois du point de vue de la façon dont ces pesticides ont transformé fondamentalement l'agriculture actuelle et a produit un modèle, on verra ça, et comment l'utilisation de ces pesticides perdure et ce que signifie la dernière proposition donc de revenir sur le plan éco-phyto en réponse au mouvement des agriculteurs. Donc pour ceci, eh bien, on reçoit deux personnes qu'on est très content d'inviter, à savoir François De Dieu, qui est sociologue à l'INRAE et qui a publié Pesticides, le confort de l'ignorance, qui est donc un livre qui revient sur la politique des pesticides, et on verra donc avec sa production d'ignorance qui l'accompagne, on va en parler un petit peu, et avec Léna Humbert, qui est doctorante en histoire environnementale à l'EHESS, comme tous les invités de radio qui se respectent. voilà. Donc, eh ben, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de la politique des pesticides, à la fois historiquement et maintenant. Et donc, bah, peut-être pour commencer, moi, je voulais partir d'abord des contradictions, parce qu'on verra que donc ce modèle agricole, il a plein de contradictions à régler en termes de production agricole, en termes de rémunération des agriculteurs, en termes de qualité. Enfin, il y a plein de contradictions et une contradiction centrale qui est celle de l'utilisation intensive des pesticides avec tous les problèmes que cela pose et qu'il faut régler ou ignorer. On verra. Voilà. Donc pour commencer, une petite perspective historique, à savoir de comprendre comment la seconde moitié du XXe siècle, l'agriculture a été fondamentalement transformée par l'utilisation des pesticides. Alors Léna, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où viennent ces pesticides, comment ils s'imposent et s'importent dans le modèle agricole dans la seconde moitié du XXe siècle ?
Alors c'est une vaste question pour un objet historique qui est encore... qui nécessite encore énormément de recherches. En histoire, il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été menés dessus. Donc il faut savoir que les produits phytosanitaires, donc on appelle plutôt ça comme ça pour le moment en histoire, voilà, donc c'est des catégories qui sont amenées à se construire, arrivent en agriculture, bon, alors déjà quand même à la fin du 19e siècle, puis dans la première moitié du 20e siècle, il y a des produits comme l'arsenic qui sont déjà pas mal utilisés en arboriculture dans les années 30. Mais le gros gap se fait après la Seconde Guerre mondiale, où énormément de produits qui ont été mis au point à la fin du 19e et au début du 20e, en fait, vont être découverts pour leur propriété insecticides, fongicides, pesticides, et vont faire l'objet d'une diffusion massive, vraiment promue par l'État, donc en France, par l'État français, et vont progressivement être diffusés au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Donc voilà, il y a plusieurs grandes catégories de produits qui s'additionnent les unes aux autres en fonction des décennies. Donc d'abord, c'est le DDT et tous les dérivés du chlore et du phosphore. Puis ensuite, des produits qui sont beaucoup plus rémanents et beaucoup plus puissants, qui vont s'appeler les carbamates, puis les pyréthrinoïdes. Et ensuite, ça c'est plutôt pour les insecticides. Et puis ceux qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont les néonicotinoïdes. Donc voilà, c'est l'histoire vraiment d'une diffusion massive, vraiment promue par l'État.
Ouais, parce que sans ces produits sanitaires qui arrivent massivement, on ne peut pas sortir d'une agriculture paysanne, en fait.
Alors,
c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué que ça, parce que c'est difficile de faire l'histoire sans. Enfin, disons que les pesticides sont vraiment l'un des piliers des systèmes agricoles intensifiés qui vont se mettre en place après la guerre, autant que le sont la motorisation, par exemple, ou les engrais. Enfin, c'est un tout, c'est impossible d'en penser l'un sans l'autre. Les pesticides ne connaissent cette diffusion aussi que parce qu'on a des tracteurs qui permettent d'avoir des épandeurs ou des avions qui permettent d'épandre les pesticides. Enfin, voilà. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. La monoculture qui est mise en place incite la prolifération des insectes, donc nécessite des traitements insecticides plus fréquents. Dans le même temps, ces pesticides, en fait, c'est une espèce de machine infernale qui ne peut pas s'arrêter. Plus on traite, plus il y a de résistance. Plus il y a de résistance, plus il faut inventer de nouveaux produits, etc. etc.
C'est un élément sur lequel on va revenir, effectivement, une sorte de fuite en avant. Mmh. Voilà. Ouais. Et toi, François, sur cette question entre lien de modernisation de l'agriculture et utilisation des pesticides, en tant que sociologue, tu le signifierais comment, toi ?
Bah, exactement comme l'a dit Léna, hein, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde de très haut cette histoire, parce que là aussi, elle a des ramifications plus complexes, mais l'idée, en fait, c'est que les pesticides sont un des grands piliers avec la mécanisation, les engrais chimiques, en fait, du développement agricole, qui, à la sortie de la guerre, en fait, était... Donc en pleine expansion, il fallait renourrir la France, l'Europe et le monde, hein, souvenez-vous. Et donc du coup, en fait, ce qu'il faut bien retenir, parce que de cette histoire, ce qui est intéressant, c'est de voir les sentiers qui ont permis, qui permettent d'expliquer en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pesticides, comme ces autres techniques, en fait, sont un instrument d'économie de gain de travail pour les agriculteurs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on passe un petit peu moins de temps dans les champs et une expansion des terres agricoles. Depuis la fin de la guerre, en fait, les surfaces cultivées, alors là aussi c'est un petit peu plus compliqué, mais disons qu'elles ne cessent d'augmenter, et les rendements ne cessent d'augmenter. Donc en fait, les pesticides agricoles, que tu parlais de développement de modèles agricoles, c'est bien ça, donc ont accompagné en fait toute l'agriculture intensive qu'on connaît jusque-là. Mais j'insiste en fait sur le fait que les pesticides sont un instrument du rendement dans ce modèle, et deux, sont une économie de gain de temps qui sont considérables, hein. C'est-à-dire que ça a permis en fait d'économiser en fait l'effort humain et l'effort aussi des animaux, hein,
en fait,
sur le labo. Voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
En fait, globalement, on libère des bras, quoi. C'est un peu cette affaire aussi de.
Et
peut-être
que
c'est en lien, on a besoin de bras précisément aussi pour l'industrie. Il y a peut-être aussi un lien comme ça qui
se fait. Sur les insecticides ou sur les herbicides, bah, finalement, on économise, je reviendrai si vous voulez dans les détails sur quelques cultures, mais on économise un gain de travail qui est considérable. Et dans un contexte où les surfaces ne cessent d'augmenter, eh bien, c'est un instrument qui est juste indispensable.
Mais alors, peut-être pour continuer sur ça, c'est que nous, on a un peu notre vision. Un peu, on va dire à la fois catastrophiste et un peu morbide des pesticides, parce qu'on a déjà donc plusieurs décennies d'usage intensif qui nous amène à cette situation. Mais peut-être il faut comprendre que à ce moment-là, c'est une transformation qui doit être en fait presque chouette à vivre. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est qu'en fait ça produit un nouvel imaginaire, c'est-à-dire que l'activité agricole qui était un ensemble de corvées, et ben en fait se transforme et peut-être même de façon assez désirable pour les personnes qui le pratiquent. Je ne sais pas si quelqu'un est sur ça, sur l'imaginaire qui se déploie sur moi là, que ce modèle.
Il faudra pas peut-être mieux, mais à l'époque, les pesticides, c'était un progrès qui est colossal. C'était vu comme une vision de la modernité qui était extraordinaire. C'est-à-dire, on allait enfin quitter l'ancienne ruralité qui était faite de labeur, de sang et de sueur pour arriver en fait à une nouvelle modernité, plus technique, avec encore une fois l'importance de la technique et de la technologie, et donc de la chimie, hein, qui permettait, encore une fois, ces gains de travail, de pas mourir dans les champs, mais d'économiser ces gains de travail. Donc c'est vrai que cet imaginaire à l'époque, à la sortie de la guerre, moderniste, qui était présenté comme tel, notamment par le ministère de l'Agriculture, est très très important. Il faut bien l'avoir en tête, et c'est que plus tard, vers la fin des années 60, 80 et surtout 90 en France, hein, que les choses vont se renverser et qu'on va voir les pesticides non plus comme un produit miracle, mais comme un danger à la fois pour la biodiversité et un petit peu plus tard pour l'homme, même s'il y avait des suspicions bien avant.
Mais pour rebondir là-dessus, c'est évident qu'il y a un discours dominant qui est vraiment très très... pro-pesticides dès le début, et puis c'est aussi allié avec vraiment une publicisation, puis même une obligation de traitement pour les agriculteurs. Enfin, l'État met en place une administration qui s'appelle le Service de protection des végétaux, qui va vraiment au niveau local contribuer à l'utilisation des pesticides. Alors évidemment, il y a cet aspect un peu miraculeux, mais il y a quand même très rapidement moi je connais plutôt l'introduction des pesticides de synthèse dans les années 40-45, des résistances et des alertes en fait qui sont quand même là. Donc moi je travaille sur les apiculteurs, donc en fait déjà à ce moment-là les apiculteurs sont très inquiets de l'utilisation des toxiques. Voilà. Donc il y a quand même aussi... bon, voilà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ces critiques qui existaient et qui existent en fait depuis 80 ans sur les pesticides n'ont pas été écoutées, n'ont pas... il y a eu des choix qui ont été faits. Évidemment que l'industrie des produits phytosanitaires et les gains de rendement que ça pouvait créer étaient beaucoup plus importants qu'à ce moment-là, que de penser... que d'imaginer que ça pouvait avoir des impacts vraiment délétères à long terme sur la biodiversité et sur même la possibilité même de faire de l'agriculture.
Et donc, peut-être ce que tu, pour aller un peu plus loin sur ce que tu dis, c'est que en fait, c'est pas simplement qu'on avait des agriculteurs qui ont comme un peu comme par miracle rencontré des pesticides qu'on leur proposait, mais qu'il y avait bien une planification qui fait que il a fallu organiser même cette nouvelle production au niveau de, peut-être que l'État lui-même mettait en place un ensemble de nouveaux règlements et qui fait que en fait d'autres modèles qui auraient été peut-être possibles à ce moment-là l'ont pas été parce que les agriculteurs c'est pas qu'ils ont simplement rencontré un nouveau produit miracle, c'est que on a transformé l'agriculture. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le formuler. Ou...
Ouais, c'est toujours,
et ce qui empêchait en fait, de prendre d'autres voies à ce moment-là.
Disons que c'est un ensemble de causes qui se rencontrent. Enfin, à la fois, il y a la découverte de ces produits, il y a la publicité des industries phytosanitaires qui deviennent vraiment très importantes dans la seconde moitié du XXe siècle. Il y a l'État qui... Enfin, en fait, il y a tout un tas de différentes... différents acteurs qui en fait vont se rassembler sur cette utilisation des pesticides et par exemple donc disons à l'INRA dans les centres de recherche en agronomie de l'État il y avait d'autres solutions qui étaient envisagées comme la lutte intégrée qui est une lutte de par exemple quand on a une invasion de pucerons c'est de mettre des coccinelles enfin c'est des luttes qui ne sont pas chimiques qui étaient très qui ont été enfin il y avait beaucoup de solutions en fait possibles mais juste elles ont été complètement minorées dans même au sein de la recherche. Donc voilà, c'est tout un ensemble entre au sein du ministère, des ministères de l'agriculture, des acteurs qui étaient vraiment pour l'utilisation des pesticides, qui avaient des accointances ou pas avec l'agrochimie. Enfin, c'est pas forcément des histoires de conflits d'intérêts, mais c'est plutôt des connivences, des connivences sur ces usages.
How did this happen?
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris le pluriel sur le 106.3 FM. On est toujours en train de parler d'agriculture et de l'utilisation des pesticides, et c'est une sorte d'histoire de l'utilisation des pesticides en agriculture et avec son lien avec la modernisation, avec donc Françoise de Dieu et Léna Humbert. Et pour continuer ce qu'on se disait avant, sur les perspectives un peu historiques de ce qui nous mène à ce conflit sur les pesticides qui dure depuis quelques décennies maintenant, eh bien, c'est de relever un peu les problèmes que ça a pu poser au cours de l'utilisation. C'est qu'on ne découvre pas là maintenant le problème des pesticides et la façon dont, malgré tout, tout a continué malgré les problèmes. Alors peut-être on peut commencer par, Léna, tu disais qu'il y avait déjà un ensemble d'alertes qui ont été données très tôt, mais dans des domaines particuliers, notamment celui de l'apiculture, qui est en fait très très sensible aux pesticides et qui sont un peu les premiers à sonner l'alarme, et en fait très tôt avec des pesticides différents des nôtres, mais qui déjà ont des grosses conséquences.
Oui, alors c'est des pesticides qui ont globalement été interdits dans les années 70. C'est les premiers qui sont introduits. Et on a très, très vite, enfin, dès 1946, des alertes d'apiculteurs qui disent qu'ils ont subi une intoxication, que toutes leurs ruches sont mortes à cause des épandages. Et très rapidement, en fait, ils vont essayer d'alerter sur les dangers. Donc toute cette controverse sur la dangerosité des pesticides pour les abeilles est au fil de la seconde moitié du XXe siècle. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a vraiment un moment où l'État, alors même qu'il essaye d'intégrer la question de la protection des abeilles dans les épandages de produits phytosanitaires, va sciemment dire qu'il faut en fait que c'est pas grave, qu'on doit tuer les abeilles parce qu'il y a un nouveau parasite qui est là sur le colza, qui nécessite d'être traité pendant la floraison des colzas, au moment où les abeilles butinent, et que en fait, s'il faut choisir, ce sera évidemment la production de colza plutôt que les abeilles.
Et là, c'est très transparent à ce moment-là, quoi.
Oui, c'est tout à fait transparent.
Et ça dure combien de temps? Parce qu'à un moment, on se rend peut-être compte quand même qu'on a besoin des abeilles. Enfin, ça dure combien de temps, ce discours un peu tout ou rien, quoi? Enfin,
bah, c'est l'histoire d'une invisibilisation, vraiment sur le long terme. Donc en fait, au début, il y a une reconnaissance. C'est vraiment intéressant de comment est-ce que fonctionne le déni de la dangerosité des pesticides. C'est qu'au début, on reconnaît que c'est toxique pour les abeilles, mais qu'on va choisir. Puis, au fur et à mesure que des produits plus puissants, plus rémanents, aux effets plus insidieux arrivent, en fait, c'est de plus en plus difficile pour les apiculteurs de faire reconnaître qu'il y a une intoxication, que c'est dû à tel produit, parce qu'il y a tellement de plus en plus, enfin, il y a des milliers de substances actives qui sont utilisées, donc c'est de plus en plus difficile de faire reconnaître que c'est tel produit qui a vraiment causé l'intoxication. Enfin, voilà. Et en fait, progressivement, c'est presque impossible de montrer l'intoxication.
Oui, et si je peux me permettre,
oui, aussi, bien sûr,
à partir des années 90, on va avoir une grande controverse scientifique. Après l'introduction des grands néonicotinoïdes que vous connaissez sûrement, hein, le gaucho, le régent, parce que le doute en fait, qui subsiste autour du fait que ce seraient ces néonicotinoïdes qui seraient à l'origine en fait, de la chute vertigineuse de la mortalité des abeilles, serait lié aussi à des acariens, un acarien en particulier qui s'appelle le varroa, hein, qui a la bonne idée aussi d'apparaître en même temps que les traitements des pesticides. Et donc toute la controverse scientifique qui commence au milieu des années 90 va être de savoir en fait quelle est la cause en fait de la mortalité des abeilles, hein, qui apparaît vite, et de savoir si elle est liée justement à cet acarien, hein, qui s'attaque aux abeilles adultes ou aux pesticides. Et cette controverse-là, elle va durer 13-14 ans. Bon, ceci dit, on va découvrir aussi, hein, à travers les travaux de Stéphane Foucard, qui a cette controverse, elle a été en partie instrumentalisée, hein, par les industriels des pesticides, qui vont quand même essayer de pousser une partie des recherches sur cette causalité qui va concerner plutôt, hein, plus l'acarien que plutôt les produits incriminés. Il va falloir attendre en fait le début des années 2000 avec une étude, parce qu'en fait toute la polémique porte sur le fait de savoir si il y a un effet à faire des néonicotinoïdes sur les abeilles. Ce qu'observe, on va y revenir tout à l'heure, en fait, un dispositif qui est très important dans notre histoire, qui s'appelle le dispositif d'homologation, hein, qui est chargé en fait d'évaluer les dangers des pesticides avant leur mise sur le marché. eh ben, dit que finalement, en fait, les néonicotinoïdes n'ont pas d'effet sur les abeilles. Et même des effets qui sont à faible dose. Et donc, du coup, bah, selon en fait, les procédures et les tests officiels qui sont faits, finalement, il n'y a pas de problème. Mais au début des années 2000, hein, une publication scientifique en particulier qui vient d'un de mes collègues d'INRAE et d'autres, va montrer en fait, qu'il y a bien un effet en fait, des néonicotinoïdes à faible dose qui va provoquer en fait, la désorientation des abeilles. Et donc, comme elles ont du mal en fait, à retrouver en fait, leur ruche, et bien, finalement, elles vont se perdre et vont finir par mourir. Donc vous voyez, en fait, il y a une controverse scientifique autour de ça. On va découvrir que cette controverse, quand même, elle a été instrumentalisée par les grands industriels des pesticides, hein, Bayer qui était derrière ça, et finalement pour savoir s'apercevoir ce que les apiculteurs, comme vient de le dire Léna, avaient observé depuis les années 60 jusqu'aux années 90, même si c'était pas les mêmes produits qui étaient incriminés, qu'il y avait en fait ces produits étaient directement en cause de la mortalité des abeilles.
Moi, sur cette affaire des abeilles, alors en fait, j'ai toujours un petit souci avec ça. C'est que ça fait de l'abeille d'une le seul pollinisateur, un peu le seul, presque on peut dire le seul agent non cultivé qu'il faudrait sauver. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Et notamment peut-être parce que bah, les abeilles, elles existent. En tout cas massivement comme ceci là, en tant que aussi agent de production que vont pouvoir utiliser les apiculteurs. Et en fait, ça se retrouve en fait être un agent qui lui aussi d'une certaine manière cultivé quoi. Et j'ai l'impression que toutes ces controverses, elles oublient bah le reste. Je ne sais pas comment le dire, si c'est vrai ou si vraiment cette focalisation sur les abeilles, elle est une façon de dire regardez les insectes meurent, ou si c'est uniquement les insectes, on s'en fiche. Ce qui nous compte pour nous, c'est les abeilles quoi.
Ben oui, tu me pointes quelque chose qui est intéressant de la construction de l'abeille comme agent de rendement dans les productions agricoles. Effectivement, j'ai pas fait cette recherche encore. Ça reste des hypothèses, mais il n'empêche que oui, on voit très fortement à partir des années 80. L'idée que de toute façon les pollinisateurs sauvages vont disparaître ou sont de toute façon plus assez nombreux ou plus assez ou plus capables d'assurer une pollinisation des cultures qui soit suffisante pour avoir des rendements importants. Et donc se construit à partir de ce moment-là effectivement l'abeille devient et l'abeille domestique, parce que l'abeille domestique et d'autres et puis là d'autres maintenant d'autres insectes comme les bourdons ou les mégachiles deviennent en fait des enjeux de rentabilité. Et du coup, c'est intéressant de voir à quel point aussi maintenant, en fait, la question des abeilles domestiques est vraiment au centre, alors que oui, tous les autres insectes pollinisateurs disparaissent, mais massivement.
Alors, à la fois, c'est vrai, puisqu'en fait, il y a une focalisation, en fait, l'abeille est devenue, en fait, le symbole du fait d'une construction historique en fait, des dégâts des pesticides. Mais il faut aussi rappeler que dans les années 60, hein, on n'en a pas encore assez parlé ici, mais Rachel Carson, hein, cette biologiste un peu iconoclaste, a, en fait, démontré dans Printemps silencieux, qui va sortir en France en 1963, montré, en fait, que les pesticides, un des plus connus, à l'époque, on en a parlé tout à l'heure, le DDT, en fait, avait des dégâts très importants sur les oiseaux, notamment. Elle observait, en fait, dans les parcelles qui étaient, dans les champs traités alentour, que les coquilles d'œufs des oiseaux étaient beaucoup plus fines. Et donc, elle expliquait, en fait, que les pesticides étaient à l'origine du retard des malformations des oiseaux et donc, à terme, de leur disparition. Donc, effectivement, il y a un effet de focalisation sur les abeilles, mais il y a d'autres effets qui ont été remarqués, hein, notamment à partir de Printemps silencieux. Et puis, jusqu'à un passé récent, où aujourd'hui, hein, comme l'a montré le dernier rapport INRAE-IFREMER, en fait, cette expertise collective qui a fait, en fait, l'état de la littérature autour de la disparition de la biodiversité, qui, il faut le rappeler, est totalement vertigineuse aujourd'hui, hein, sur lequel, en fait, les pesticides avaient une part de responsabilité prépondérante. Hein. Et notamment, là aussi peut-être on en reparlera tout à l'heure, sur des effets indirects des pesticides qui ne sont pas assez bien mesurés, en fait, par le dispositif d'homologation et les tests toxicologiques qui sont mis en œuvre et qui sont supposés, en fait, évaluer le danger des pesticides. Et ce que montre ce rapport-là, c'est que en fait, les pesticides, en détruisant par exemple une partie des sols et des habitats en fait des insectes, d'un certain nombre d'insectes comme les coccinelles, ben, finalement, on les oblige à aller ailleurs et elles se font en fait dévorer, manger ou trouvent des environnements moins propices pour leur développement, et ce qui explique aussi leur disparition. Donc en fait, toute la problématique des pesticides, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est longtemps focalisé, mais là peut-être on y reviendra tout à l'heure, sur en fait les effets directs des pesticides sur les animaux, et comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, en fait, même ces effets directs ont été